Trentaine de médicaments, c'est le don du PNUD, Fonds mondial destiné aux personnes vivant avec le VIH-SIDA. Ce lot de médicaments est composé des antirétroviraux et autres différents produits contre les infections opportunistes et les maladies sexuellement transmissibles. Plus d'une trentaine de structures œuvrant dans le secteur de la lutte contre le SIDA vont bénéficier de ces produits. Cependant, comment se fait la distribution? Quel peut être l'impact de ce don dans la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH-SIDA? On en parle avec des invités bien placés. Nous avons Yves Alexandre, coordonnateur technique du PNUD Fonds mondial, qui est avec nous dans ce studio. Bonjour, monsieur Yves Alexandre.
Bonjour.
Nous avons également Dédé Ouachiba, responsable national, chargé du suivi et évaluation au PNMNS. Bonjour, Dédé Ouachiba.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous éclairer sur cette question qui préoccupe nos auditeurs. On va vous donner la parole dans un instant, mais d'abord le point avec vous, Marcel Ngombo. Alors, pour commencer, peut-on considérer cette assistance du PNUD de Fonds mondial comme un appui majeur dans la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH-SIDA?
En tout cas, Nicole, selon les structures bénéficiaires de ces médicaments, cela constitue un appui qui n'est pas de moindre dans la mesure où, grâce à ces financements, beaucoup de malades éligibles au traitement antirétroviral peuvent accéder à ces traitements de manière générale. Comme vous le savez, ce traitement est un traitement à vie et pas facile d'y accéder pour bon nombre de personnes qui sont éligibles à ces traitements, simplement faute de moyens. Et il faut également signaler qu'en dehors des antirétroviraux, c'est l'eau des médicaments est constituée aussi de certains produits comme pour contre des maladies opportunistes et les infections sexuellement transmissibles. Et tout ça, c'est pour aider à ces personnes à accéder au traitement.
Alors, quelles sont les structures retenues pour ce don de médicaments du PNUD Fonds mondial?
Alors, pour les structures qui ont bénéficié de ce don, on a pu nous informer là-dessus. On a cité par exemple l'armée du salut qui a bénéficié de ces médicaments. Nous avons également les diocèses de Kisantu. Il y a également l'ONG-CFO. Il y a Mokongo. Mais rapidement, il faut signaler que toutes ces structures ont été sélectionnées après avoir soumissionné au lancement d'appels d'offres à proposition que le PNUD Fonds mondial avait lancé. Et ce sont ces ONG qui ont été retenues, qui ont pu bénéficier de ces médicaments.
Oui, alors est-ce que les structures sélectionnées bénéficient déjà de ces médicaments?
Il y a déjà quelques-unes qui ont reçu, notamment à Kinshasa, il y a, on pourra citer par exemple l'ONG CEPOR, qui est une ONG installée dans, au centre hospitalier à Montcollet. Il y a également l'armée du salut qui ont pu recevoir ces médicaments. Alors, pour au niveau du Fonds mondial, nous avons laissé entendre que pour l'instant, l'opération s'est faite à Kinshasa, mais ça va se poursuivre progressivement à l'intérieur du pays. Alors là, par exemple, j'aimerais déjà vous laisser écouter ce que nous dit le docteur Adolphe Ndaraoui-Goulou, qui est médecin directeur du centre hospitalier Montcollé et responsable de l'ONG CEPOR.
Au départ, avant cet appui, nous accusions beaucoup de difficultés pour pouvoir prendre la charge de ces patients qui sont nombreux autour de nous, mais qui, du fait des difficultés financières, n'avaient pas facilement accès à ces soins. Depuis que nous bénéficions de cet appui du PNUD Fonds mondial, à ce qui nous concerne, nous, au niveau de CEPOR, nous avons enregistré en effet une arrivée massive de patients qui viennent pour les dépistages et puis pour la prise en charge, de sorte que jusqu'à présent, malgré les difficultés qui ont émaillé le déroulement du travail, nous n'avons à notre niveau pas enregistré les interruptions du traitement, la suite, disponibilité ou bien les retirs des produits antirétroviraux. Et nous estimons que l'appui a été assez efficace et puis l'impact a été très positif parce que la plupart de ces patients ont récupéré une qualité de vie assez acceptable, assez bonne, pratiquement comparable aux autres personnes qui ne sont pas VIH. Et nous estimons que l'impact a été très, très positif.
Oui, parce qu'il faut retenir que le taux des personnes vivant avec le VIH-SIDA est tout de même élevé hein, en République démocratique du Congo.
On parle Nicole, de plus de autour de 1 500 000 personnes qui vivent avec le VIH-SIDA, mais il y en a autour de 200 000 qui, en principe, devaient suivre le traitement antirétroviral, mais bon, c'est à peine quelques 15 à 20 000 personnes qui ont s'il faut le dire, entre guillemets, la chance de suivre le traitement pour l'instant. Mmh. Là, par exemple, pour cet ONG, Nicole, il y a 520 malades qui suivent le traitement au sein de cet ONG et grâce à cet appui du PNUD Fonds Mondial, ils peuvent le suivre de manière régulière.
Alors, est-ce à dire que grâce à ce financement du PNUD Fonds Mondial, ces structures ne connaissent pas de difficultés dans le suivi de la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH?
Pas du tout. Cela dépend certainement d'une structure à une autre. Par exemple, pour les cas de l'armée du Salut, où près de 1400 malades du SIDA sont suivis, bien que les centres ne soient pas souvent exposés à des ruptures de stock, mais il y a des fois où certaines molécules manquent, et cela pose problème. Suivant le docteur Blaise Massamba, qui est chargé du projet PNUD Fonds Mondial pour les comptes de l'armée du Salut.
Les difficultés, il y a énormément de temps parce que, bon, tout au début, vous savez, ce sont souvent les estimations des Belges concernant les quantités à demander. Là, on avait des problèmes parce que, de temps en temps, plus nous dépistons les malades, pendant que vous dépistez les malades, vous savez que vous avez déjà un lot de médicaments que vous gérez. Alors, il n'y avait pas de concordance entre les malades que nous suivions et le lot de médicaments que nous recevions. C'est ce qui fait que de temps en temps, on connaissait le retour de stock. C'est par rapport que nous avons changé de stratégie en demandant, quand nous formulions nos demandes de médicaments, on mettait toujours une marge de sécurité et depuis lors, nous n'avons pas encore de problème avec les fonds mondiaux. Peut-être pour quelques molécules, des fois, vous voyez, si la consommation augmente, des fois, vous demandez là-bas, on dit que cette molécule, il n'y en a plus, il faut attendre. Mais de temps en temps, il y a des ONG aussi qui viennent à notre secours, peut-être en cas de manque d'une ou deux molécules. Là, nous citons par exemple les Bédium, dans les Médecins sans frontières en Belgique, qui viennent de temps en temps nous secourir quand nous avons des problèmes ou nous connaissons de retirer des choses en telle ou telle molécule. Mais disons, en gros, nous sommes vraiment dans les bons, donc nous ne connaissons vraiment pas ce problème-là de retirer des choses.
Donc si cela semble bien se passer à Kinshasa, c'est loin d'être le cas à l'intérieur du pays, parce que là, on a eu à évoquer cela dans une des villes de la RDC où on a enregistré des cas de retour de stock. Hein.
Vous faites bien de le rappeler, Nicole, c'était la ville de Guadolité dans la province de l'Équateur où les centres de dépistage volontaire installés à l'hôpital général de référence de cette ville ont été en rupture de stock depuis un stock bien sûr des antirétroviraux depuis 2 semaines. Et écoutons Barnabé Mbouyi qui est le chef du centre de ce centre au micro de notre Dominique Wolong.
Il y a plus de 2 semaines passées que nous n'avons plus d'antirétroviraux. Les stocks étaient épuisés. Nous avions fait des réquisitions en Batra jusque là, nous n'avons pas eu de produits. Il n'y a pas de gants aussi ni de terrain. Ce matin aussi, j'ai remis la réquisition entre les mains de l'État directeur. Je crois qu'il va encore envoyer en Batra. Nous avons des problèmes sur lui aussi.
Vous avez des problèmes sérieux. Si ces malades-là ne sont pas soignés pendant un long moment, qu'est-ce qui peut leur arriver?
Et bien, s'ils ne sont pas soignés pendant un long moment, la résistance peut se créer. Les PCD sous-traitement déjà, ils sont au nombre de 45 qui suivent actuellement les traitements. Dès qu'ils ne sont pas encore mis sous-traitement aux antirétroviraux, ils sont plus de 100.
Voilà, donc il y a déjà 45 qui suivent le traitement. Et si ces 45 n'arrivent pas à se procurer ces antirétroviraux, on peut croire qu'il y aura des résistances dans la maladie. Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce qu'ils ont pu finalement avoir ces antirétroviraux?
Aux dernières nouvelles, le médicament se trouverait déjà en Bandaka et je crois qu'au moment où on parle, ils seront déjà arrivés sur place à Bandaka.
Mais que pensent finalement les malades du sida eux-mêmes, Marcel, de cet appui du PNUD Fonds Mondial?
Bien évidemment, Nicole, cette assistance est bien accueillie par ces malades, mais seulement, elles ont d'autres préoccupations par rapport notamment à leur nutrition, parce que pour ces personnes, ces médicaments nécessitent qu'ils soient bien nourris, et souvent, ils n'ont pas de moyens pour cela. Ils auraient souhaité qu'ils puissent également être assistés de ces côtés-là. Et un autre souci, ces personnes se demandent qu'en est-il des antirétroviraux fabriqués par Pharmakina, parce que pour l'instant, ces antirétroviraux ne sont pas d'ici, ça vient d'ailleurs. Alors, écoutons à ce sujet à Jean-Luc Hira, qui est président du réseau national des organisations d'assistance communautaire de lutte contre le sida réonacensique.
Les ARD sans nutrition, ça ne va pas. Et puis Corbeil y a pensé pour qu'on puisse appuyer la nutrition, qu'on puisse appuyer le PDV en leur donnant l'éducation nutritionnelle et les suppléments alimentaires. L'éducation nutritionnelle est très très importante et puis même voire même des suppléments alimentaires. Donc il y a les PDG qui ont moins de 50 kilos, par exemple comme au CPA et ici aussi au Renoir, avec l'aide des Corbeil. Les PDG qui ont moins de 50 kilos, nous leur donnons les suppléments alimentaires pour remonter leurs kilos jusqu'à ce qu'ils arrivent au moins à 50 kilos ou plus de 50 kilos. Et puis, surtout les problèmes des médicaments, c'est tout un problème pour le moment, pour notre pays. Il faut aider Pharmacina. Parce que Pharmacina avait déjà un processus pour la fabrication des ARV. Jusqu'à présent, on nous a dit qu'il a fallu un certificat de prévalidation pour la vente de ces médicaments-là.
Voilà, donc on va suivre avec nos invités. Hein. Nous avons déjà deux invités dans ce studio qui vont parler avec nous. On va s'arrêter là, Martin Gombo, et nous rappelons encore une fois à tous ceux qui nous suivent à travers le pays, qui sont les bienvenus à travers leurs réactions, bien sûr, au 081 070 20 50. À la prochaine, hein, Martin Gombo.
Merci de t'avoir dit.
Avec le soutien des coopérations suisses, britanniques, américaines et néerlandaises.
Otaki.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Tonnes de médicaments pour les personnes vivant avec le VIH grâce au financement du Fonds mondial. C'est une réalité aujourd'hui en République démocratique du Congo et nous avons dans ce studio M. Yves Alexandre en tant que coordinateur technique du PNUD, Fonds mondial, qui est justement prêt à nous confirmer cela. M. Yves Alexandre, on a suivi tout à l'heure le point de vue de Marcel Ngombo à ce sujet. C'est grâce au Fonds mondial qu'aujourd'hui on a pu avoir réceptionné en RDC ces 30 tonnes de médicaments pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA.
En réalité, oui, mais je voudrais cadrer un peu ce soutien, c'est ça.
Allez-y.
Il faut le voir dans le contexte d'une réponse nationale face au VIH-SIDA coordonnée par des structures nationales et qui appelle certains partenaires à contribuer à cette réponse nationale. Et ces 30 tonnes qui viennent, effectivement, comme vous le disiez si bien, viennent du projet Nutri Mondial, à savoir c'est un peu ce que nous appelons la contribution du Fonds mondial au pays. Non plus, nous ne faisons que jouer un rôle de gestionnaire, gestion programmatique et financière de ce projet Fonds mondial au niveau de la RDC. Et il ne faut pas considérer cette réception de 30 tonnes comme étant un phénomène isolé. Ça fait partie d'un système d'approvisionnement, de distribution qui dure déjà depuis environ 3 ans. En fait, ce projet-ci a démarré depuis 2005 et déjà, nous avons pu mettre sous antirétroviraux plus de 20 000 patients dans le cadre de ce projet. Donc, il ne faut pas le prendre comme une distribution ponctuelle, pas du tout. C'est un lot comme tant d'autres qui sert le pays depuis 2005, pour lequel un certain nombre de besoins, un certain nombre de produits ont été identifiés et progressivement acheminés dans le pays et vers les destinations pour vous trouver ces patients.
C'est depuis 2005 que la RDC réceptionne ce nombre, c'est-à-dire 30 tonnes de médicaments.
Disons, je le dirais plus de cette manière, c'est oui. Une acquisition progressive. Disons que le projet PNUD mondial dans le pays entend, dans sa contribution à la réponse nationale, couvrir 26 000 patients de manière cumulative. Ce qui fait que on a démarré à la première année en 2005 avec un certain nombre de patients et on continue trimestre par trimestre à prendre à enregistrer de nouvelles cohortes jusqu'à passer à l'heure actuelle de 0 patient à plus de 21 000 patients en 2008. On voit dès que c'est progressif, c'est croissant et selon un plan de distribution, c'est ce que nous appelons un plan de procurement, les produits viennent régulièrement dans le pays pour pouvoir couvrir l'ensemble des sites qui sont dévolus au projet PNUD mondial.
Comme vous dites que c'est un projet hein, qui va se poursuivre, puisque ce n'est pas ponctuel, le prochain, c'est quand?
Disons que les arrivages
en premier trimestre,
c'est ça. Et je vais expliquer pourquoi c'est. Bon, je m'étonne d'abord qu'il y ait autant de bruit sur cet arrivage-ci, mais je le propose dans ce contexte particulier. Bon, c'est le projet du Fonds mondial, comme cet arrivage-ci s'inscrit dans le cadre du Round 3, qui démarre sa deuxième phase, et ce Round 3 prend fin en décembre 2009. Ce qui fait que, dans ce contexte, entre guillemets, de soumission que nous appelons Ramon, c'est un projet qui va durer jusqu'à 2009. Mais déjà, le pays a bénéficié d'une autre appel à subvention que nous appelons Ramon 7, qui va encore durer 5 ans. Donc, nous ne sommes pas trop inquiets en ce qui a trait à la régularité et à la progression de cette prise en charge. Cependant, comme le disait notre collègue tout à l'heure, nous avons des besoins nationaux qui se chiffrent à plus de 200 000 patients qui seraient nécessiteux en termes de prise en charge par ARV. C'est l'une des raisons pour lesquelles le pays a fait appel à d'autres partenaires tels que nous qui contribuent. Chacun d'entre nous, nous apportons notre pierre d'achoppement au niveau de la réponse nationale.
Mais on retient que le prochain lot, c'est dans 5 ans.
Non, pas dans 5 ans. C'est quasiment selon la planification des achats, des réceptions et des distributions. Nous recevons des médicaments quasiment toutes les semaines. Ça dépend des produits. Ça veut dire que au démarrage d'un projet, nous faisons une quantification des besoins en raison des objectifs du projet. Notre objectif, c'était de mettre 26 000 patients sous ARV au terme de ce projet. Mais nous n'allons pas faire venir au pays les besoins de 26 000 patients d'un coup, pas du tout. Nous faisons une progression de commandes, une progression de réception, une progression de distribution. Mmh. Un accident de fait qu'effectivement, vous avez été au courant de cette réforme, mais ça fait partie de pas mal de distributions antérieures.
Ce n'est pas la première.
Non, ce n'est pas la première fois du tout, et on aura pas mal de
Mais une précision, parce que là, on a suivi tout à l'heure, il y a eu quelques ruptures de stock, hein, alors que ce n'est pas la première fois, notamment en Guadeloupe, il y a eu des ruptures en ce qui concerne la distribution des produits. Comment se fait cette distribution des médicaments pour les PVV?
C'est ça. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait partie d'un cadre donné. Le cadre donné, c'est la réponse nationale qui est coordonnée par, dans le cadre de la prise en charge, par le ministère de la Santé et le PNLS. Et eux, ils font appel à différents partenaires. Et ces différents partenaires les aident à,
effectivement, disons,
à couvrir les besoins autant que faire se peut. Mais il faut voir la prise sous ARV comme étant un processus qui demande pas mal de préalables. En termes de préalable, il faut avoir des médecins prescripteurs, il faut avoir des institutions sanitaires avec un plateau technique donné, ou d'abord faire ce que nous appelons le bilan d'origine, ensuite faire le suivi biologique, le follow-up biologique. Parce que la mise sous ARV, devait se faire avec une certaine qualité. Alors, l'ensemble des sites, entre guillemets, qui sont fonctionnels actuellement, ne dépendent pas d'un seul partenaire. Ils sont coordonnés par le ministère de la Santé, mais ça consiste à être soutenu par différents partenaires. Actuellement, je pense que nous sommes 5 ou 6 partenaires actifs, la Banque mondiale, nous-mêmes, l'UNICEF, l'OMS, la partie nationale elle-même qui fait des efforts, etc. Il ne faut pas prendre, entre guillemets, une rupture de stock au niveau d'un site particulier et l'attribuer à un partenaire. Non, il faut l'attribuer à ce que j'appelle ou un déficit de besoin ou une surconsommation de produits en tenant compte du fait que certains partenaires peuvent, comme ils l'ont dit tout à l'heure, nous recevons massivement des patients. Et si la planification à l'échelle nationale, qu'elle soit faite par le ministère de la Santé, par un des partenaires, si la planification prévoyait 100 patients et les besoins avaient été fournis pour 100 patients, et que la demande est beaucoup plus élevée, c'est tout à fait normal que ce site-là tombe en haut de sol.
Oui. PNMS est, on peut dire, hein, un de vos partenaires.
C'est un de nos partenaires les plus proches.
Voilà. Alors, Dédé Ouattiba, en tant que responsable national, chargé du suivi et évaluation PNMS, vous êtes bien placé, mieux placé d'ailleurs pour nous dire comment, au niveau de PNMS, vous vous organisez pour la distribution de ces 30 tonnes de médicaments à travers la RDC.
Oui, comme Steve Alexandre l'a dit, en fait, nous nous appuyons plus sur le plan de distribution qui est élaboré avec toutes les parties prenantes. Et la principale partie prenante, c'est le ministère de la Santé.
Mmh.
Donc, on les fait. Et c'est sur base de ça, c'est sur base de ce plan de distribution, donc par province et par site. Et nous essayons de tenir compte des préalables, comme il allait dire, et nous suivons ces distributions sur ces plans de distribution.
Et chaque province a droit à combien de médicaments?
On ne peut pas les dire comme ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est selon ce plan de distribution et selon les besoins, selon aussi les profils épidémiologiques de chaque province.
Alors, parlons des besoins à couvrir. Vous le faites certainement autant que faire se peut, comme l'a dit Yves Alexandre. Mais est-ce qu'on peut connaître les besoins de chaque province?
Oui, j'ai un papier que je pourrais donner ici, peut-être si j'allais le voir Baptiste, je l'ai dit à la radio. Il y a les besoins par province et aussi l'état de prise en charge. En fait, pour le moment, par exemple, le PNMLS gère aussi le projet MAP de la Banque mondiale. Là, on parle de 20 000 au niveau du Fonds mondial, mais le projet MAP a déjà acheté des doses pour 8 000 malades, par exemple. Donc, mais les 8 000 malades, il faut avouer, il y a toujours un problème aussi de trouver les malades là où ils sont. Les doses sont là. Il faut savoir, pour le projet MAP, il y a 5 000 qui sont effectivement mises sous ARV, mais la disponibilité, c'est 8 000 doses. Donc, mais ça, c'est plus le problème ministère de la Santé, qui est plus le bénéficiaire principal de ces ARV, et aussi le plan des modalités pratiques de mise...
Si on insiste sur cette distribution, sur ces besoins, en fait, c'est peut-être le terme qu'il faudrait employer, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un couac dans la ville de Guadeloupe. Vous avez suivi tout à l'heure quelques réactions. Comment expliquer cette rupture de stock des médicaments? Ça n'a aucun sens, parce que ce n'est pas ponctuel, la distribution de ces médicaments. Comment expliquer cette rupture de stock des Ouachiba?
Bon, Dr Yves pourra me compléter là-dessus, mais c'est vraiment la problématique, elle est complexe, hein, je vais dire ça. Il se pose un problème aussi de procurement, d'acquisition, c'est pas aussi simple que ça. Le bailleur de fonds qui finance l'acquisition des ARV pose un certain nombre de questions. Il y a des procédures de passation de marché qu'il faudra tout ça respecter. Alors, par exemple, si je peux parler de la Banque mondiale. Vous êtes au courant de tout ce qui est procédé, appel d'offres, tout ça, mais aussi, en matière de distribution, nous devions avoir une structure qui pouvait nous aider à assurer aussi cette distribution. Par exemple, nous sommes sur le point de signer avec la FEDECAM. FEDECAM, qui est une structure formée et qui a plus d'expérience en ce qui concerne l'acquisition. J'appellerais ça comme une structure d'utilité publique, en fait. C'est une fédération des centrales de distribution en général. Donc, il y a la FEDECAM qui est là, qui peut acquérir, tout ça, mais qui a un réseau de distribution à travers le pays, par province. Il y a SCAMES, il y a CCF. Donc, voilà. Et nous devons signer des contrats avec les CDF. Et les CDF, par rapport aussi à la situation réelle de chaque province. Si à Guadeloupe ou à l'Équateur, ça, je dois avouer que je ne maîtrise pas tellement les détails. Docteur Aimé, s'il était là, il pouvait vous le dire. On tient compte de la configuration des centrales aussi de distribution par province. À ce moment-là, on pourrait le savoir. Avec tout ce qu'on a connu, nous sommes un pays post-conflit, il faut voir tous les problèmes d'acheminement. Il y a un effort d'organisation, de prise en charge un peu de toutes ces distributions pour éviter les problèmes de rupture. Donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour essayer un peu
d'arriver. On a toujours reproché au PNMLS d'être un peu complaisant, et surtout parce que vous avez tous suivi, le 3 décembre dernier, les PVV sont montés au créneau pour réclamer l'égalité à l'accès aux ARV. Alors, aujourd'hui, donc, vous avez déjà une idée, je vois, de ces livres à l'écran, ce qui veut dire que vous aviez déjà une idée précise sur la demande, disons le besoin, comme on dit, exprimé au niveau local. Alors donc, à ce niveau, le problème n'allait pas se poser.
S'il vous plaît, c'est effectivement à ce niveau que je souhaitais encore intervenir. Je fais un rappel que notre collègue journaliste tout à l'heure, en rappelant à bon escient que le pays faisait face à plus de 1 400 000 personnes vivant avec le VIH et devait affronter une réalité de plus de 200 000 patients à mettre sous ARV. Essayez d'imaginer ce que ça veut dire. Nos capacités actuelles ne nous permettent pas d'aller au-delà de 30 000 personnes. Nos capacités actuelles, tous partenaires confondus, dans l'encadrement et dans les orientations du ministère de la Santé. Les capacités nationales en termes de structure, en termes de médecins prescripteurs formés, en termes de plateau technique, en termes de capacité de donner les soins palliatifs et autres choses, ne dépassent pas actuellement, en 2008, plus de 30 000
patients pour pouvoir bénéficier
oui, du service. Une question de précision. Ouais. Où en est-on avec l'appel d'offres lancé d'ailleurs tout dernièrement par le Fonds mondial autour du mois de mars, si ma mémoire est bonne, ouais. Et le mois de mars, avril, la date limite. Où en est-on? Est-ce qu'il y a eu quand même des gens qui ont souscrit? Et parce que les PNMLF qui faisaient la coordination, est-ce que bon, aujourd'hui on fait quand même éventrer le bois pour savoir qui sont
les élus?
Ouais, c'était un appel à proposition pour trouver des partenaires ayant les capacités réelles d'agir sur le terrain dans le contexte de nos interventions, à savoir un paquet d'activités prévention et prévention. De cet appel à proposition, nous avons traité 197 dossiers, 197 soumissions et 23 ont été retenus avec ces capacités. Ils ont bénéficié d'une évaluation de leur soumission technique, évaluation administrative, évaluation financière et évaluation des capacités. 23 ont été retenus et ces 23, je veux dire, sont déjà actifs parce qu'ils font partie de structures qui déjà collaboraient à la phase, au round 3. Et au round 3 phase 1 et vont continuer toujours au round 3 phase 3. Mais pour revenir à ce que je disais en termes de capacité, essayez d'imaginer que nous avons actuellement 200 000 patients aux portes de nos institutions qui ne sont capables que de traiter 30 000. C'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, sans qu'il y ait capacité de rupture de stock ou non, les pressions de 200 000 sur des capacités de 30 000 provoquent automatiquement une surconsommation et des ruptures de stock. Je dis bien, la situation idéale n'existerait jamais. Nous sommes, avec les responsables nationaux, en train d'étudier comment, effectivement, progressivement, pouvoir offrir des soins de qualité à ces 200 000. Et ça prendrait un certain temps. Ce n'est pas une histoire d'abord d'approvisionnement, non. C'est une histoire de capacité réelle d'offrir des soins de qualité, à savoir suffisamment de médecins prescripteurs, suffisamment de structures ayant les plateaux techniques pour servir, etc., etc. Ça se fait dans le cadre d'une planification, d'une quantification avec des vues stratégiques progressives.
Est-ce que tout ça ne pouvait pas être fait en amont, par exemple, avant que vous ameniez les 30 tonnes de médicaments? Ben alors, on peut disponibiliser ces 30 tonnes, mais s'il n'y a pas de médecins, et s'il n'y a pas de structures sanitaires déjà ciblées, moi je crois que c'est
non, le travail. Je le disais à votre collègue, à Nicole. Bon, comme je le disais à Nicole tout à l'heure, c'est ça. Cette intervention n'est pas une intervention ponctuelle. Elle se fait dans le cadre de ce qu'a démarré le pays depuis les années 2000. Le pays a démarré sa prise en charge déjà en 2002-2003. Avec seul d'abord, ensuite avec des partenaires. Non, dans le cadre qui nous concerne, nous sommes un projet d'une fonds mondiale et qui a comme ambition au terme du projet en 2009, en décembre 2009, de mettre 26 000 patients sous ARV. Donc, le lot que nous avons reçu très récemment fait partie d'un système d'approvisionnement qui a démarré depuis 2005. Et c'est valable pour d'autres partenaires. Comme je le disais, il faut que nous concevions la problématique d'ensemble de la prise en charge comme étant un système qui s'organise dans un pays en post-crise, dans un pays avec des limitations, dans un pays avec des gaps énormes de communication, dans un pays avec des gaps énormes de lignes aériennes, dans un pays où le système sanitaire post-guerre était très déliquescent et qui se fait dans la relance nationale que vous connaissez. Donc on ne peut pas d'un coup avoir, comme génération spontanée, des capacités de traiter ou de mettre sous ARV ou d'offrir des soins à 200 000 personnes. Il faut une identification des besoins, il faut un plan de contingentement pour voir progressivement, mensuellement progresser.
On a compris cela, il va répondre donc au coordonnateur technique du Fonds mondial, mais il sera qu'il y a aussi, vous êtes informé là-dessus d'ailleurs, Pharmakina produit également des antirétroviraux. Pourquoi ne pas les associer pour augmenter PNMLS, vous devez peut-être répondre à la question, Watuba.
Oui, moi je trouve le problème des Pharmakina est avant tout un problème national. Évidemment, la prise en charge ou l'acquisition des ARV pour le moment est en majeure partie financée par des bailleurs de fonds internationaux. Et pour eux, il faut une certaine préqualification. Il faut que la firme qui vous fournit les ARV soit préqualifiée par l'OMS, ce qui n'est pas encore le cas avec la Pharmakina. Mais c'est pour vous, il est une question d'extrême d'intérêt national qu'on essaie de promouvoir sur ces productions locales.
Oui.
À ce moment-là,
oui.
Ce qu'il faut faire, il faut. Moi, j'ai recommandé au gouvernement d'appuyer la pharmacie,
oui.
À avoir cette préqualification.
Parce là,
à ce moment-là, ça pourrait nous aider non seulement à prendre en charge nos propres malades, mais si les plans aussi sont macroéconomiques, tout ça, ça pourrait aider les pays aussi à avoir des devises et voir maintenant cette entreprise à rayonner au niveau sur
les malades.
On peut appuyer les malades du Burundi, du Rwanda, d'ailleurs, ainsi de suite.
Pharmakina, quand même, une expérience, et c'est comme si on doutait de la crédibilité des produits de Pharmakina.
On s'est pensé
à les antirégulations.
Quand vous parlez de pré-qualification, avec un rappel à l'intérieur des auditeurs,
c'est
vous voulez, c'est ça. Disons, c'est très souvent, nous oublions que nos pays, nous devons respecter ce que nous appelons les conventions internationales auxquelles nous souscrivons, c'est ça. Dans le contexte de la prise en charge, pas que dans le cadre du SIDA, dans le contexte de la mise à disposition de médicaments, ces produits doivent passer par toute une série de rigueurs en termes de contrôle de qualité pour être préqualifiés et ensuite qualifiés. Car Pharmakina, qui œuvre dans le contexte de la prison CHPARV, bénéficie du soutien de pas mal de partenaires. À la limite, nous serons même à la base, entre guillemets, de l'essor de Pharmakina. Et nous continuerons à promouvoir, entre guillemets, qu'il passe les différentes étapes qui lui permettraient effectivement d'accéder à la préqualification, à la qualification et à la capacité de mettre à disposition. C'est des étapes tout à fait normales. C'est comme quand on fabrique un vaccin. Il faut passer par étape, première étape,
donc,
deuxième étape.
Donc, on retient que le problème se pose au niveau de Pharmakina.
Au niveau des étapes obligatoires. C'est comme un enfant qui ne peut pas courir à la naissance.
Mm-hmm.
Donc, il a peine d'abord à ramper, à se mettre debout, à faire un premier pas, à faire un deuxième pas. Pharmakina doit bénéficier effectivement de ces démarches.
Oui. Alors, pour terminer, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de
temps.
On aura à revenir là-dessus, soyez en sûr. Parlons de la prise en charge alimentaire des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Vous y avez pensé? Parce que c'est bien de leur donner des antirétroviraux, mais il faut aussi qu'ils mangent et qu'ils mangent bien, ces personnes vivant avec le VIH.
Oui, ça c'est aussi c'est une politique nationale. On parle de la prise en charge holistique. Ça signifie la prise en charge totale, non seulement médicale, mais il faut une prise en charge nutritionnelle, une prise en charge économique, une prise en charge psychologique des personnes vivant avec le VIH. Et ces différents aspects sont pris en charge par un certain nombre de partenaires. Donc, il faut que ce n'est pas des partenariats. L'avantage comparatif, toujours, c'est-à-dire, si moi je suis plus spécialisé dans l'acquisition, la nourriture, permettez, mais tout ça,
vous faites un suivi. Parce que
oui, on fait le suivi, c'est les systèmes.
Vous parlez de partenaires, mais à savoir, si réellement ces partenaires font bien leur travail, ça, c'est une autre affaire. Hein?
Ok.
Merci de nous accuser.
Oui, au niveau de la Banque mondiale, il y a eu un problème d'abord. De 2005 à 2006, le projet MAP appuyait nutritionnellement aussi les PVV, mais quand il y a eu la supervision de l'équipe Banque mondiale, cette équipe a recommandé qu'on arrête l'appui nutritionnel, ce qui était aussi un problème par rapport à la politique nationale. Et après, les choses ont beaucoup évolué, et aujourd'hui, il est recommandé, comme je venais de le dire, c'est un appui politique. Donc, il appartient à chaque partenaire qui intervient en faveur des PVV de tenir compte aussi de cet appui. Mais cet appui aussi ne doit pas être. Ne doit pas, parce qu'il y a aussi les revers de la médaille. On a vu dans certains pays, comme le Rwanda par exemple, on fait partie de la GLIA. La GLIA, c'est Great Lake Initiative, l'initiative des pays des grands lacs contre le VIH, et nous nous retrouvons avec le Rwanda. Il y a un phénomène au Rwanda, des gens, des malades, des gens qui n'étaient pas VIH, pour avoir l'appui nutritionnel, ils s'est déclaré, ils s'est arrangé avec les médecins pour qu'ils soient...
Oui, mais c'est au partenaire d'être vivant.
Non, ça peut arriver ici.
Oui.
Dans un pays pauvre, on a la nette impression que les PVV sont plus privilégiés maintenant.
Il y a trop de problèmes de stigmatisation. Je pense que les gens peuvent s'adapter.
Non, vas-y, à Lubumbashi, je vais vous dire. Bon, peut-être que je pense
aller. Oui, allez-y.
Il faut rappeler que je reviens dans le contexte du PNUD comme agence de développement avec une section que nous appelons réduction de la pauvreté. Et nous avons une section qui développe des interventions dans le contexte de réduction de la pauvreté. Et je vous rappelle aussi que les objectifs du millénaire appelaient le sida, le paludisme et la tuberculose maladies de la pauvreté. lutter contre le sida, passeport, lutter contre la pauvreté, après un cercle vicieux. Dans un contexte particulier, et là, Mexico, la conférence de Mexico l'a rappelé, si nous voulons garantir l'observable, garantir les effets bénéfiques à 100% des ARV, nous devons veiller à l'alimentation et à la nutrition des patients.
Vous allez veiller?
Dans un contexte de lutte contre la pauvreté, nous devons inclure ça effectivement comme facteur à prendre en compte. Deuxièmement, toujours dans le cadre de ce que disait Dédé tout à l'heure, aspect holistique entre guillemets de la prise en charge, la conférence de Mexico nous a aussi rappelé que si nous voulons avoir l'accès universel et le scaling up, le passage à l'échelle, offrir la capacité d'offrir à tous les patients ce que nous leur devons en tant qu'État, en tant que responsable, en tant que partenaire, nous devons faire le renforcement du système de santé. C'est un cercle vicieux auquel nous nous attelons. Et avec la partie nationale, nous espérons pouvoir faire suffisamment d'identification et une planification objective de prise en compte dans le contexte de développement. C'est un problème de développement.
Alors, on va s'arrêter là. C'est une affaire à suivre, hein, parce que bon, il faudrait qu'on voie comment ça évolue, cette prise en charge des personnes vivant avec le VIH. On peut s'arrêter là, Bébé Mouachiba, responsable national chargé de suivi et évaluation au PNMS. Vous remercie d'avoir été des nôtres. Ainsi que vous, hein, Yves Alexandre, en tant que coordonnateur technique du PNUD. Au mondial. Merci d'avoir été là.
Nous vous remercions et nous espérons que nous reviendrons.
À la prochaine.
Merci.